Bonjour tout le monde. On vous invite à tourner avec nous dans le psaume 91. Et avant d'entreprendre la lecture du psaume avec Stéphane, simplement un petit quelques mots sur la structure de ce psaume-là. Ça va vous aider à l'apprécier puis à le recevoir un petit peu plus. Donc, ce psaume-là est divisé en trois sections, puis c'est pas évident dans une première lecture. C'est pour ça que je prends le temps de le mentionner. C'est un psaume qui parle de repos en Dieu, de se confier en Dieu, de trouver un refuge en Dieu. Les deux premiers versets, c'est comme si les deux premiers versets, c'est un vieux routier de la foi qui est en train de parler de son expérience. Des années à se confier dans le Seigneur, puis à éprouver la fidélité de Dieu. Et ensuite de ça, les versets 3 à 13, il va s'adresser à celui qui fait le choix de se confier en Dieu. Et c'est pour ça qu'on passe au-dessus, à la deuxième personne. Et lorsqu'on arrive à la toute fin, les versets 14 à 16, c'est l'Éternel. C'est Dieu qui parle de son engagement envers celui qui se confie en lui. C'est bon? Ça, c'est la structure. Donc, 1, 2, 3 à 13, puis 14 à 16, on va l'ensemble dans un mot de prière. Père Éternel, on est assemblés ici ce matin pour recevoir ta parole, la recevoir dans nos cœurs, afin que ton esprit vienne l'appliquer dans nos vies, Seigneur. On est ici pour reconnaître que tu es Dieu, que tu es grand, que tu es saint, Seigneur. Père, pour nous, tu es un refuge. Tu es un abri précieux, Seigneur, où on aime aller se réfugier. Tu es une forteresse pour nous. Et on a découvert en Jésus-Christ combien, Seigneur, tu étais prêt aux plus grandes choses, aux choses les plus extrêmes, aux actes d'amour les plus grands, parce que tu nous aimes, Seigneur. Alors ce matin, je te demande de venir parler à nos cœurs, viens nous faire entendre ta voix à travers ta parole et que ton esprit vienne appliquer cette parole dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons grandir comme Église dans notre vie de prière et on veut développer ce réflexe, cette conviction de se tourner vers toi pour trouver notre refuge dans la prière, venir te confier nos soucis, nos inquiétudes, retrouver la foi en toi, Seigneur. Alors, bénis la lecture et l'exposition de ta parole ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
Alors, la lecture de ce matin est dans Psaume 91. Je vais lire la nouvelle édition Genève. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Dieu très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.
Merci Stéphane. Cette semaine, je pensais au... C'est quoi qui m'inspire le plus personnellement chez un homme, une femme de Dieu? Comme pasteur, j'ai plein de rêves, j'ai plein d'ambitions pour l'Église, pour le royaume de Dieu, pour que l'Évangile s'étende au Québec, dans ma famille. J'ai toutes sortes de modèles. Il y a plein de pasteurs à qui je regarde, qui m'inspirent. J'ai lu des biographies de missionnaires. Puis honnêtement, lorsque je prends le temps de m'arrêter puis que je mets tout ça en ordre, je pense que ce qui m'inspire le plus, chez un homme, une femme de Dieu, c'est son calme et sa confiance en Dieu dans les moments de difficulté. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai beau penser à des, pour moi, là, des prédicateurs extraordinaires qui nous aident tellement à comprendre des choses des fois complexes dans la parole, ou j'ai beau penser à des Hudson Taylor qui ont tout abandonné, sont allés amener, apporter l'Évangile dans la Chine, puis ça a été difficile, puis certains qui sont des David Brainerd qui sont morts sur le champ de mission. Et malgré tous ces sacrifices-là, cette intensité-là, ce zèle-là, ce dévouement, je pense que ce qui m'inspire le plus, c'est un homme, une femme de Dieu, qui, dans les moments de trouble, dans les moments de difficulté, trouve son calme et sa confiance en Dieu. Puis j'ai des modèles, tout à l'heure, je vais vous en nommer quelques-uns, mais des gens que j'ai vus avancer comme ça dans la foi et trouver ce calme et cette confiance en Dieu dans les moments de détresse. Et je pense que pour moi, c'est ce qui symbolise le plus la foi chrétienne, la maturité chrétienne. Personnellement, j'estime que j'ai encore énormément de chemin à faire dans ce domaine-là. Le psaume qu'on regarde ce matin, on peut le résumer comme ça, c'est un psaume pour apprendre à vivre le repos, à garder le cœur calme, l'esprit serein dans les moments de détresse. Et voici comment je résume un petit peu tout l'exposé de ce matin. Ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que Dieu est le refuge, le protecteur et le repos de celui qui l'aime et se confie en lui de tout son cœur dans les moments de détresse. La paix de celui qui persévère avec le Seigneur. Regardez avec moi les versets 1 et 2. On va juste les relire ensemble brièvement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je l'ai dit tout à l'heure, les deux premiers versets, c'est au « je ». Puis c'est un vieux routier de la foi qui est en train d'exprimer son expérience avec Dieu. Et il y a quatre noms qui sont utilisés pour la personne de Dieu. Il y a vraiment une emphase qui est mise. Dieu le Très-Haut. El Yong, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, vous vous rappelez des vieux cantiques, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Ensuite de ça, Éternel, dépendamment de votre traduction. En anglais, souvent, ça va être Lord. En fait, c'est Yahweh qui est là. D'accord? Donc, le Très-Haut, celui qui est au-dessus de toutes choses. Celui qui est Tout-Puissant, qui est au contrôle de toutes choses. Le Seigneur, celui qui domine et qui règne. Et enfin, Elohim, mon Dieu. Quatre noms de Dieu pour mettre un emphase sur la puissance de Dieu. Ensuite de ça, il y a quatre lieux qui nous sont présentés. Dieu est mon abri. Dieu est mon ombre. On parle d'un pays avec des déserts et ça prend tout son sens là. Dieu est mon refuge. Dieu est ma forteresse. Il y a vraiment un accent qui est mis sur la sécurité, la paix, le réconfort, le repos qu'on trouve lorsqu'on se confie en Dieu. Et puis ensuite de ça, on va y aller avec, le psalmiste va y aller avec tout ce qu'on trouve. Il passe au-dessus et il dit, voici tout ce que tu as lorsque tu te confies en lui. En anglais, il y a une expression « all encompassing », ça couvre absolument tout. C'est comme si tout est couvert, c'est exhaustif. On lit au verset 13, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, pas de violence. » Tu vas être à l'abri de toute violence qu'on va vouloir te faire. Pas de maladie, au verset 6, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Pas d'ennemis qui peuvent te faire du mal, encore une fois, au verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Et puis, comme si c'était pas suffisant, aucun malheur, au verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est un psaume qui est écrit, qui aurait pu être écrit par une femme de Dieu, qui est écrit par un homme de Dieu, qui a expérimenté Dieu, qui a expérimenté les difficultés de la vie, qui a connu les épreuves de la vie, qui a vu des gens souffrir. Et à la fin, avec toute son expérience, il dit, « Confie-toi en Dieu. Fais confiance à Dieu. Dieu est un refuge, je te l'assure, Dieu est un refuge. » J'ai des hommes, des femmes de Dieu qui sont pour moi des inspirations. Puis comme je vous le disais tout à l'heure, c'est j'ai beau penser à, par exemple, Monsieur Keefe. Monsieur Keefe qui a été un des pionniers pour l'Évangile ici au Québec, qui a œuvré pendant quelques années dans cette assemblée-ci. Monsieur Keefe qui a quitté une carrière professionnelle, possiblement au hockey. Il avait été recruté par les Rangers, je pense, dans les clubs-écoles des Rangers. Mais qui a décidé de partir pour la mission. Il a tout quitté. Puis lorsque je pensais à Monsieur et Madame Keefe, c'est pas le fait qu'ils ont tout quitté pour la mission qui m'inspire le plus. C'était leur confiance en Dieu à la fin de leur jour. Je me souviens d'être allé visiter Monsieur Beau, le fondateur de cette église-ci. Dans les dernières années de sa vie, je me suis dit, on n'a pas assez d'archives, il faut mettre quelque chose sur vidéo, je vais aller tourner de quoi, puis on fera quelque chose avec ça un jour. Je suis descendu à Sherbrooke, je suis allé chez lui, on a passé 2 heures ensemble. J'ai demandé de me raconter le début de l'histoire de cette église-ci. Et c'est ça qui me touchait, c'est sa confiance dans la fidélité de Dieu après toutes ces années-là. Je pense à Monsieur Alexanian, qui est fondateur de Sambec, notre séminaire. Puis encore aujourd'hui, Monsieur Alexanian est vivant, puis plein d'énergie. Tout le monde envie cet homme-là à son âge d'avoir encore autant de zèle. Il est encore dans le ministère, s'occupe encore d'une assemblée. Mais ce qui m'inspire le plus chez Monsieur Alexanian, c'est ce calme et cette confiance en Dieu. Ça revient tout le temps. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'inspire le plus. Madame Martin, une de nos doyennes qui est partie rejoindre le Seigneur, lorsque j'allais voir Madame Martin, puis qu'elle me parlait de son amoureux, elle me parlait de Dieu, puis de ses temps de prière qu'elle avait avec lui dans la nuit. C'était encore une fois cette confiance en Dieu. Alors, je ne sais pas si c'est votre expérience que vous avez avec Dieu, mais ceux et celles qui persévèrent dans la foi à travers les années, qui continuent à faire confiance à Dieu, c'est ce qu'ils vont vous recommander d'apprendre à aller dans la prière. C'est ça qu'on fait à travers la série Carnet de voyage. C'est ça qu'on veut travailler ensemble. On veut grandir dans ce réflexe-là. Lorsqu'il arrive des moments d'inquiétude, des moments de trouble, des moments de joie, carnet de voyage parce qu'on veut se confier en Dieu constamment dans la prière. Lui confier nos joies et nos peines. Et ce psaume-là nous parle de cette assurance, ce refuge qu'il y a lorsque je vais vers Dieu dans les moments de difficulté. Est-ce que c'est un réflexe chez toi de te tourner vers Dieu pour trouver ton réconfort en lui dans les moments de trouble, quelles que soient les circonstances? C'est une des plus belles manières d'enseigner à nos enfants à faire confiance à Dieu, c'est de prier avec eux. Lorsqu'ils sont tout petits, prier avec eux le soir lorsqu'ils se couchent, revenir sur leur journée à l'école, sur leurs inquiétudes, prier avec eux pour qu'ils fassent confiance à Dieu. Ça se peut qu'en vieillissant, ils aient des doutes, ils aient des questionnements, puis ils remettent des choses en question. Mais ce sera déjà une grâce incroyable que vous aurez semée dans leur vie, dans leur cœur, dans leur pensée, de développer le réflexe de se tourner vers Dieu. Et donc, bien avant ma conversion, parce qu'on m'avait enseigné lorsque j'étais tout petit à crier à Dieu quand ça allait pas, bien avant ma conversion, alors que j'étais dans le monde, puis je voulais rien savoir de Dieu, je voulais certainement pas qu'il dirige ma vie. J'ai encore un vieux paquet de cigarettes que j'avais défait un soir, j'avais juste un bout de crayon, c'est tout ce que j'avais comme papier, puis j'avais fait des niaiseries pas possibles. Le pire m'attendait, puis j'ai ça, une prière que j'ai écrite dans mon vieux carton de cigarettes, où j'ai prié à Dieu, puis j'ai crié à Dieu, mais j'en avais rien à cirer de Dieu au quotidien. On m'avait enseigné quand j'étais tout petit. Le refuge, c'est en Dieu. Et Dieu continuait son œuvre dans mon cœur, dans des moments de détresse. C'est une des plus belles choses que vous pouvez enseigner à vos enfants alors qu'ils sont tout petits. Trouver son refuge en Dieu. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quand j'ai pris le temps de lire ce psaume-là, puis de le relire, puis de le relire, il y a comme une espèce d'ambivalence qui s'installait en moi. C'est là, puis je lisais ça, puis « Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. » Je sais pas. Il y a comme Je sais pas. Ça fait 20 ans hein, que je suis dans le ministère pastoral. À chaque année, je vois mon lot de chrétiens qui semblent atteints par le malheur. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je lisais le psaume, puis j'étais comme ambivalent. Il y avait toute cette sécurité-là, d'une part, qui était là, qui me disait, « Vas-y, Yannick, confie-toi en Dieu. Fais confiance à Dieu. » Puis en même temps, il y avait comme une espèce de sentiment de fleur bleue, de Heidi dans les prés. Tout va bien aller, on va aller cueillir des pâquerettes. Parce que Jésus t'aime, tout va bien se passer. C'est pas, non? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est comme si le psalmiste nous disait, crois en Dieu, puis tu souffriras jamais. Vraiment? Vraiment? À la limite, si on le prend au premier degré, ce psaume-là, c'est le psaume parfait pour l'Évangile de la prospérité. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'Évangile de la prospérité, vous écouterez un peu la télé cette semaine, des prédicateurs. Il faut vraiment avoir du discernement quand vous cherchez des prédicateurs sur la télé, d'accord? Il y en a des excellents, prêchent la parole de Dieu, mais je vous dirais que la fausse doctrine qui court le plus, c'est l'Évangile de la prospérité. Crois en Jésus, fais confiance à Jésus, ton compte de banque va se remplir. S'il se remplit pas assez vite, donne un petit peu plus à l'Église. Cette semaine, c'est une saison pour semer pour le Seigneur. Donne à l'Église, ton compte de banque va se remplir. L'Évangile de prospérité. T'as des problèmes de santé, tu manques de foi. Il y a peut-être un péché dans ta vie, passe à la confesse, ça va se régler. L'Évangile de prospérité. C'est le psaume parfait pour l'Évangile de prospérité. Si on prend tout au premier degré, c'est ça qui se passe avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est en train d'affirmer là? C'est inspirant, mais il y a quelque chose un peu de fleur bleue, me semble, dans ça. Qu'est-ce qui se passe là? Pourtant, c'est la parole de Dieu, là. Je suis pas en train de questionner ça. C'est définitivement la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on doit le prendre absolument au premier degré? Ben, juste pour vous donner une piste quand même simple dans le texte, si je prends tout au premier degré, verset 3, si jamais tu t'accroches dans un filet, Dieu va te sortir de là, t'as pas d'inquiétude à avoir, d'accord? Verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Fait que prends-le littéral, puis si jamais t'es mal pris, ton filet de pêche te tombe en face, pas de problème, Dieu va arriver, il va te sortir de là. Ce sont des images, d'accord, qui me sont données ici, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je prends tout au premier degré? Est-ce que vraiment Dieu est en train de me dire qu'il n'y a jamais aucun malheur qui va s'approcher de celui qui croit en lui? Ah, écoutez, le psaume 91 fait partie du livre des psaumes. Il y a une tonne de psaumes qui sont des psaumes de gémissement, de souffrance, des psaumes écrits dans la détresse, pour nous encourager à croire en Dieu. Il y a comme une contradiction. Si vraiment Dieu est en train de me dire ici que le chrétien, celui qui se confie en Dieu, souffrira jamais, ben là j'ai un problème, je suis dans le livre des psaumes, puis ne serait-ce que ça, mais je veux dire, avant le livre des psaumes, c'est quel livre qui est dans la Bible? C'est le livre de Job. C'est le livre de Job. Wow, bravo la foi, hein? Tu fais confiance à Dieu, tu perds tout. Tu perds absolument tout, tu es engagé dans une vie de souffrance. En fait, les amis de Job faisaient la même lecture du psaume 91 qu'un prédicateur de l'Évangile de la prospérité. On pourrait dire ça. Job, écoute, tu souffres, c'est évident. On sait pourquoi tu souffres. T'as un péché dans ta vie, t'as oublié de faire ton culte personnel de ce temps-ci. C'est pour ça que tu souffres. Les amis de Job prenaient ça au premier degré et disaient littéralement, si t'as des épreuves dans ta vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta foi, c'est sûr. Il y a un péché dans ta vie, repens-toi, boum, tout va se placer dans ta vie. Mais pensez aussi, quelle interprétation le diable ferait de ce psaume-là si il tombait sur ce psaume-là par hasard? N'est-ce pas? C'est un des passages que le diable va citer à Jésus. Lorsque Jésus est conduit au désert pour être éprouvé, être mis à l'épreuve, comme Israël avait été conduit au désert pour être mis à l'épreuve. Jésus est conduit au désert, le Fils parfait. Puis il va être mis à l'épreuve. Puis là, le diable va lui citer ce psaume-là. Dans Matthieu, on trouve ça dans Matthieu, dans Matthieu 4, versets 5 et 6. Écoutez ce qu'il dit. L'interprétation du diable pour Jésus. Le diable le transporta dans la ville sainte, probablement soit une vision, soit que c'était physique, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, c'est le psaume 91, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le diable comprend le texte, il prend au sens littéral, il dit, « Regarde, c'est ça qui est écrit dans le texte. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es un bon chrétien, si tu marches fidèlement avec Dieu, voici ce qui va se passer. Dieu va venir te délivrer. » Et c'est l'interprétation ou l'usage que le diable voudrait que Jésus fasse du texte. Maintenant, regardez bien quelle est la réponse de Jésus au verset 7. Comment est-ce que Jésus répond? Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Laissez-moi vous suggérer ceci. Le diable aurait aimé que Jésus s'enorgueillisse de son statut de fils de Dieu à un point tel qu'il se sente le droit de réclamer à son Père une protection bulletproof, complète, garantie 100%, qui lui permettrait même de réclamer que si Dieu voulait le faire passer, si son Père voulait le faire passer par un sentier d'épreuve, il pourrait dire, « Ah, je suis ton fils. Je peux pas passer par là. Moi, je suis ton fils bien-aimé. Tu peux pas me faire passer par là. Je suis ton enfant. Tu m'aimes. » Et donc, le diable vient suggérer à Jésus d'avoir une attitude arrogante qui va l'amener à réclamer, à tenter Dieu en disant, « Tes voix, ce que tu sembles projeter pour moi, c'est peut-être pas sage. Est-ce que tu aurais oublié que je suis ton fils? » Est-ce que tu aurais oublié que je suis ton fils? Et Jésus répond, il dit, non, 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 les voies du Père sont parfaites. Tu ne tenteras point ton Dieu. Aie confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Et donc, c'est tentant pour nous, à travers l'épreuve, lorsque la souffrance vient, de dire, Seigneur, tu m'as dit que tu m'aimais. Tu m'as dit que tu m'aimais. Après tout, tu as donné ton fils pour moi. Pourquoi est-ce que je dois souffrir comme ça? Seigneur, tu m'as dit que tu m'aimais. Tu m'as dit que tu m'aimais comme la prunelle de tes yeux. C'est ça que tu dis dans ta parole. Pourquoi est-ce que je devrais souffrir comme ça? Et la chair de vouloir nous amener à dire, hein? T'es où, Seigneur? C'est quoi ces voix-là? Et de se mettre à interroger Dieu, à questionner Dieu sur sa sagesse et son amour envers nous. C'est l'interprétation du psaume 91 que le diable suggère à Jésus. De prendre ça, cette assurance-là de l'amour de Dieu, puis de laisser de l'arrogance, de la rébellion venir s'installer dans notre cœur. Mais que se serait-il passé si Jésus avait adopté ça? Comment est-ce qu'il va faire pour traverser la plus grande épreuve de sa vie, qui est celle de la croix? Comment est-ce qu'il va traverser ça? Si Jésus adopte cette attitude-là, s'il adopte cette vision-là, parce qu'après tout, c'est vrai, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Est-ce que Dieu ne va pas envoyer des anges pour secourir son Fils bien-aimé? Mais comment est-ce que Jésus va traverser la plus grande des épreuves, le moment glorieux de l'histoire de l'humanité, le moment glorieux de l'histoire de l'univers, s'il ne fait pas confiance à Dieu alors qu'il passe à travers des tests? Dans le Nouveau Testament, on a un verset qui ressemble un petit peu au psaume 91, Romains 8, 28. Romains 8, 28, l'apôtre Paul dit, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça, là, c'est le psaume que tu ne veux pas te faire citer quand tu passes par des épreuves. Tu sais, ton chum, là, qui pense vraiment qu'il est ton chum, puis qui veut juste te faire du bien, puis te dire, « Regarde, là, je pense que tu as perdu le focus. » La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça couvre tout. Tout. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque un chrétien a le sentiment qu'il est en train de couler, qu'il est en train de se noyer, qu'il est en train de faire naufrage, tellement il y a de souffrance dans sa vie? Qu'est-ce qu'on dit à un chrétien, à une chrétienne qui a perdu un proche dans des circonstances absolument dramatiques? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que tu dis à un chrétien qui se confie en Dieu, mais qui semble incapable, année après année, de se trouver du travail stable pour pourvoir aux besoins de ses proches? Qu'est-ce que tu fais avec le psaume 91, avec cette personne-là, lorsque des parents ont un enfant de 2-3 ans qui lutte avec le cancer et qui se confie en Dieu? Qu'est-ce qu'on fait avec ce psaume-là? Lorsqu'une sœur dans la foi ou un frère lutte avec la dépression pendant des années puis cherche à se confier en Dieu, mais dans son esprit, c'est la noirceur, une espèce de congestion cérébrale permanente qui fait que ton esprit est englué puis c'est difficile de trouver le moral. Qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances-là? Pour bien des gens, dans bien des circonstances de leur vie, le psaume 91 ou Romains 8, 28 peut sembler tellement irréel, tellement fleur bleue, tellement bucolique. Garde, c'est bon pour toi, mais moi, je pense que je suis né à une autre enseigne et c'était pas pour moi, cette affaire-là. Laissez-moi vous suggérer que le psaume lui-même résout cette question-là. Je pense que la réponse à cette tension-là, qui est comme aucun malheur ne va t'atteindre, est résolu dans le psaume lui-même lorsqu'on arrive à la fin du passage. C'est dans la réponse de Dieu qu'on trouve justement la résolution à cette difficulté-là qui est souvent une vraie difficulté pour notre foi. Versets 14 à 16. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Verset 15a, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. » Dans la détresse. Ce psaume-là n'exclut pas des moments de détresse. Ce psaume-là n'exclut pas les épreuves. C'est pas ça que le psaume est en train de dire lorsqu'il dit qu'aucun malheur va l'atteindre. Mais il parle de la proximité de Dieu avec nous au milieu de l'épreuve. Il parle de la présence de Dieu avec nous dans la difficulté. Et c'est pour ça que Jésus ne remet pas en question la parole de Dieu lorsque Satan vient lui suggérer un usage malsain de ce psaume-là pour être arrogant envers son Père. C'est l'Esprit qui a conduit Jésus au désert. C'est Dieu qui l'a conduit dans cette épreuve-là. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et Dieu est en train de dire, c'est parce que je vais être avec toi dans la difficulté, je vais être à côté de toi. La promesse du psaume n'est pas autant qu'aucune épreuve n'atteindra celui qui se confie en Dieu, que Dieu l'accompagnera toujours et le gardera, le délivrera constamment. La fin du psaume met l'accent sur une alliance. C'est super littéral au verset 13, il dit, au verset 14, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Le psaume 91 parle d'une alliance entre mon Dieu et moi, celui que j'ai choisi pour refuge. Et il dit, parce qu'il m'aime, parce qu'il a choisi, de se confier en moi, il a choisi de venir vers moi. Dans les moments de détresse, il est venu vers moi, confier son cœur à moi. C'est une alliance d'amour qui est scellée entre celui qui décide de se confier en Dieu et Dieu lui-même. Entre le Tout-Puissant, le Très-Haut, qui semble parfois tellement loin dans les épreuves. Mais c'est une alliance d'amour qui a été traitée entre un homme et une femme. Très ordinaire, à travers des épreuves des fois tellement terribles. Une alliance d'amour qui a été scellée avec Dieu, qui fait que la foi soutient, la foi supporte, parce que Dieu supporte. Parce que Dieu n'abandonne pas à travers l'épreuve. Voici comment c'est formulé dans le Nouveau Testament. Je vous ai cité tantôt Romains 8, 28. Maintenant, regardez le verset 29-30, les versets 29-30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est ça qu'il dit dans le psaume 91, je le glorifierai, il les a aussi glorifiés. Et donc, Dieu promet que ceux qu'il a appelés, il va les soutenir, il va les accompagner. Il leur réserve un bel héritage. Malgré les moments de détresse, il va nous accompagner. Et il va y avoir des moments de détresse. Toujours dans Romains 8, au verset 35, Paul va dire, pour nous fortifier dans notre foi, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Parce que Paul sait très bien que les chrétiens vont passer par ces choses. L'Église a été fondée dans les premiers siècles à travers des périodes de persécution incroyables où les chrétiens étaient mis à mort, pourchassés, jetés dans les arènes. Perdaient leur emploi à cause de leur foi, à cause du nom de Jésus-Christ. Paul sait que ces choses s'en viennent. Mais il dit, qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Et donc, la promesse que Dieu donne au-delà de toutes les épreuves, dans le psaume 91, c'est qu'il va être avec nous dans la détresse. Il va nous accompagner dans la détresse. Il va nous garder dans la détresse. Dans Luc 21, versets 16 à 19, on lit, « Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous. » C'est Jésus qui parle, là. « À cause de mon nom. » Mais regardez bien ce qu'il dit à la fin. « Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Et Dieu est en train de dire, « Je vais être avec toi dans l'épreuve. » Je vais te supporter dans l'épreuve. Je vais te garder dans l'épreuve. Je vais t'accompagner. Jamais je vais m'éloigner de toi. Ça se peut qu'il y ait des moments où tu vas avoir l'impression que je vais être tellement loin de toi. Mais la vérité, c'est que je suis en train de te porter. Je suis en train de te délivrer. C'est vraiment intéressant dans le psaume 91, à la fin, le verset même que le diable cite à Jésus au verset 11, il dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. » Dans Hébreux 1, 13, on lit ceci, « Auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Mais écoutez la suite. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Intéressant, hein? Un écho au psaume 91. Alors que nous, on est dans l'épreuve, puis qu'on peut avoir le sentiment que Dieu est loin de nous, puis qu'il nous a abandonnés, même si ce sentiment-là veut venir, cette pensée-là veut venir s'installer, je peux me rappeler que Dieu a des légions d'anges, que je ne vois pas. C'est par la foi que je crois cela. Mais Dieu se sert de ses anges pour me supporter, pour me porter à travers les épreuves de la foi, pour être avec moi. C'est le grand réformateur Jean Calvin qui dit ceci. En parlant de la perspective qu'on va avoir une fois qu'on va être dans la gloire, dans la présence de Dieu, je vous parlais des kiffs, des beaux, de Mme Martin, de ces gens qui sont dans la gloire et qui peuvent regarder en arrière, qui sont allés rejoindre Jean Calvin. Et Jean Calvin disait, « Quand nous regarderons à notre vie du point de vue de l'éternité, nous verrons que la puissance de Satan était si grande que la faiblesse de notre chair était si grande et que l'hostilité du monde était tellement forte que tous les jours de notre vie, si Dieu n'était pas intervenu, nous n'aurions jamais pu persévérer. Parce que Dieu est avec nous dans l'épreuve, parce qu'il nous accompagne. » Et je veux terminer avec deux promesses qu'il donne à la fin du psaume 91. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Ce matin, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Puis Dieu dit au psalmiste, « Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Voyez-vous, le christianisme, de manière absolument unique, de manière incomparable avec aucune autre religion, nous a démontré que Dieu était avec nous. Comment est-ce que Dieu l'a fait? Dieu est venu parmi nous dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Il est venu marcher parmi nous. Il est venu être éprouvé au désert, tenté par le diable. Il est venu goûter qu'est-ce que c'est de vivre sur la terre. Et Jésus, plus que quiconque, plus que n'importe quel homme, n'importe quelle femme, connaissait l'intimité avec le Père. Pensez à ses prières lorsqu'il parle au Père. Les gens l'entendaient prier puis ils disaient, mais quelle intimité avec Dieu, c'est pas possible. Quelle confiance en Dieu absolue. Et pourtant, il a été éprouvé jusqu'à s'écrier sur la croix, hein? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a connu l'épreuve. Mais il est venu pour marcher parmi nous, pour être avec nous. Au début du psaume 91, il y a une image qui est utilisée. Au verset 4, il te couvrira de ses plumes. Et cette image-là de Dieu qui est comme une mère poule, comme une mère oiseau qui vient protéger, abriter, prendre à l'abri ses enfants. Jésus va utiliser la même illustration pour s'adresser à Jérusalem dans Matthieu 23, verset 37. Il va dire, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. » Jésus nous dit dans ce passage qu'il veut être pour nous cet abri, cette sécurité. Quelque temps plus tard, il s'est rendu à la croix, il est mort sur la croix afin de vaincre notre ennemi, le péché, afin de vaincre la mort, afin de nous assurer qu'on pouvait trouver refuge en Dieu sans jamais douter qu'il nous porterait et nous garderait jusqu'à ce que nous entrions dans la gloire avec lui. Ce matin, on va prendre ensemble le repas du Seigneur, on va chanter des louanges. Et je ne sais pas si ton cœur cette semaine était troublé, si ton cœur était, tu te sentais loin de Dieu. Dieu n'était pas ce refuge. Ou peut-être au contraire, tu as su cette semaine, par la grâce de Dieu, constamment aller trouver ton refuge en Dieu, saisissant par la foi cette assurance que Christ est mort sur la croix pour tes péchés. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance qu'il est avec moi. J'ai l'assurance qu'il ne va pas m'abandonner. Mais peut-être au contraire que Dieu n'est pas ton refuge. Et si Dieu n'est pas ton refuge, où vas-tu aller te mettre à l'abri contre les épreuves de la vie? Quand tout semble mal aller, où est-ce que tu vas trouver à apaiser ton cœur? Dieu veut être pour toi un refuge. Tout ce qu'il te demande, c'est d'entrer dans cette alliance d'amour avec lui. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Et Dieu t'invite ce matin. Si Dieu n'est pas ton refuge, il t'invite tout simplement à dire, « Seigneur, je veux que tu sois mon abri. Je veux que tu sois ma forteresse. » Pas simplement quand tout va mal, puis tu déchires un carton de cigarette, puis tu écris dessus « Au secours, Seigneur! » Mais à tous les jours de ta vie, que ton cœur puisse venir trouver un repos en Dieu. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on est ici pour te célébrer ce matin, pour célébrer et se rappeler à nos cœurs que tu es un abri, Seigneur. Et si tu permets des épreuves dans nos vies, jamais tu ne nous abandonnes. Et si les épreuves viennent, Seigneur, si les malheurs viennent vers nous, tu nous dis dans ta parole que tu relèves le juste, que tu es avec lui dans l'épreuve, que tu nous portes même, que tu vas savoir garder notre foi jusqu'à ce que nous entrions dans la gloire, Seigneur. Père, ce matin, je veux te prier pour ceux et celles dans l'Église qui traversent des épreuves et le diable et le monde et la chair pourraient venir suggérer à leur cœur, « Mais où est ton Dieu? » Mais où est Dieu? Tu m'as dit qu'il allait te bénir. C'est C'est pas des bénédictions, ça? Seigneur, viens rappeler à leur esprit à travers ce temps de louange, à travers le repas du Seigneur. Viens rappeler à leur esprit combien tu nous as aimés, Seigneur, en Jésus-Christ. Viens fortifier leur foi. Et je te prie pour celui ou celle qui n'a pas choisi encore, mais que tu appelles ce matin par ton esprit à trouver en toi son refuge. Viens, Seigneur, viens lui accorder cette grâce. Viens le convaincre, la convaincre de venir se mettre à l'abri du Très-Haut. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.